l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, voilà, me voilà aujourd'hui encore pour parler de la solidarité internationale et je suis en présence de Latifa Drif, qui est une militante féministe en lien avec l'international, bien sûr, elle vous en parlera, et montpelliéraine d'adoption, mais vous voyez qu'on peut passer par Montpellier et puis voilà, rejoindre un peu le monde. Et donc, ce n'est pas par hasard que Latifa se trouve aujourd'hui avec moi, puisque nous sommes à quelques jours de la Journée internationale des femmes. Voilà, et vous savez que c'est une cause qui a de plus en plus d'importance dans le monde entier et au vu aussi de l'actualité. Bonjour Latifa.
Bonjour Marie-Claude.
Comment ça va ?
Ben, moi, je vais bien. Ouais, tout va
d'accord.
Bien.
Donc, Latifa, justement, on avait un petit peu réfléchi ensemble. Et puis, tu m'avais proposé, et j'ai trouvé que c'était vraiment une proposition super, tu m'avais proposé de parler du protocole de Maputo. Maputo se trouvant au Mozambique. Voilà. Et bon, c'est quelque chose qui sonnait à l'oreille, effectivement, dont on a entendu parler, mais qui est quand même relativement ancien, puisque j'ai regardé dans l'historique, effectivement, ça date de 2003. Et c'était quand même, je pense, à l'époque, une très bonne révolution. Donc, j'attends que tu nous expliques un petit peu tout ça, la révolution que ça a représenté et tout ce que ça implique. D'accord ? Voilà, okay. Je t'écoute.
Voilà, donc effectivement, je t'ai proposé de parler du protocole de Maputo, qui a le nom de la ville de Maputo qui se trouve au Mozambique. Mm-hmm. Et ce protocole, en fait, a été concrétisé en 2003.
Oui.
Donc, ça fait 20 ans. Mm-hmm. 2003, donc ça fait 20 ans, 2024.
Oui, oui.
Et c'est un instrument juridique qui propose un cadre législatif, j'ai envie de dire, complet en termes de droits, d'égalité, de citoyenneté et notamment des droits des femmes.
Oui.
Voilà, notamment des droits des femmes. Donc, ce protocole balaye toutes les questions de droit, politique, économique, sociaux, culturel, santé, famille, etc. Et c'est cet éventail donc est vraiment très large, mais comme on sait, un protocole est concrétisé par des hommes et des femmes politiques. C'est vrai, à l'époque, il y avait plus de femmes. D'hommes, pardon,
oui, il y avait
c'est
plus
un lapsus. Et donc, ce traité, il a, une fois qu'il est écrit, qu'il est voté par l'Assemblée, qu'il a fait, il faut que chaque pays
le signe
et le ratifie. Donc c'est comme tous les traités, comme par exemple la Convention d'Istanbul européenne qui a été lancée par la France et contre les violences faites aux femmes. Donc il faut que le pays signe et ensuite il ratifie. Et donc la signature, elle peut se faire, bien sûr. J'ai envie de dire que c'est une démarche facile. Et par contre, la ratification engage les pays à mettre en place tous les dispositifs pour qu'il y ait accès à ses droits. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas, même si des pays, pareil, je pense notamment au Maroc, qui a ratifié le protocole.
À l'époque, il ne l'avait pas signé, je crois, même.
Non, le protocole. Aujourd'hui, oui. Je pense que sur...
Ils l'ont signé, d'accord.
Il y a combien de pays en Afrique? 54 ou 55?
Eh bien là, je vois qu'il y avait 49 pays signataires.
Signataires, voilà. Alors ouais. Aujourd'hui, il y a la majorité des pays, l'ont, je crois sur les 54, il doit y avoir plus de 45-46
oui.
Qui ont signé et ratifié. Oui. Ça veut dire que ces pays-là, ils se sont engagés à mettre en place des... je prends un exemple tout simple. Si je prends le cas du Burkina, qu'on connaît bien toutes les deux, le Burkina Faso, par exemple, a mis en place tout un protocole en termes de santé maternelle, avec énormément de beaucoup de formations. Et je me rappelle plus, centre de soins, comment ça s'appelle au Burkina, l'équivalent de la SMI, voilà, avec une formation du personnel, et notamment l'accueil des femmes qui viennent suite à des hémorragies et suite à des avortements clandestins. Donc ça a été mis en place. Ça a été mis en place ailleurs, mais peut-être qu'on va dire tout de suite que vu la situation géopolitique au Sahel, évidemment, on sait tous et toutes que ce sont des situations de conflit ou d'instabilité qui impactent toujours les questions de santé, de la famille, d'accès aux droits, etc. Voilà. Donc, par exemple, le Maroc a lancé aussi, donc, d'une part, il y a eu la réforme du droit de la famille, qui, comme, par exemple, en Algérie et dans d'autres pays, sont très, très inégalitaires et discriminatoires. Pour donner un petit exemple, l'homme a le droit de divorcer, mais la femme n'a pas le droit de demander le divorce. Voilà. Donc, ces pays-là ont lancé, d'ailleurs le Maroc courageusement a lancé même un débat sur l'avortement, mais sur le droit à l'avortement. Et donc, ce débat a réuni un petit peu toutes les franges, on va dire, institutionnelles, éthiques, religieuses, etc. Il a eu lieu, ça n'a pas encore avancé, mais en tout cas, le débat a été lancé. Il y a tout un groupe avec un professeur en gynécologie qui s'appelle, je crois, Rafiq Shraibi, qui a monté une association de lutte contre l'avortement clandestin pour dire, bah voilà, hein, si on avait le droit aux femmes d'interrompre leur grossesse quand elle n'est pas désirée ou suite à un viol ou parce qu'elles ne peuvent pas ou parce qu'elles ont décidé que non, elles ne souhaitent pas avoir d'enfants, ben on n'est pas, on serait pas face à ce problème de santé publique qui met en danger les femmes, étant donné qu'elles vont toujours chercher le moyen d'avorter. Et ça, c'est pas que le cas du Maroc. Ça, c'est dans le monde entier, puisque chez nous, on va être les pionniers en France.
Oui, c'est
IVG
ça.
Dans la Constitution.
On est très fiers, d'ailleurs.
Voilà,
je crois, la France
IVG
est fière
dans
de ça,
la Constitution. Et ça, c'est vraiment un symbole fort pour toutes les femmes du monde. Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'est c'est la finalisation de la à Versailles de cet ancrage ou enchâssement, je ne sais pas comment je veux dire, dans la Constitution du droit à l'IVG. Et par rapport donc à cette question qui est liée à l'avortement, elle est liée à toutes les femmes du monde. On sait que toutes les femmes maîtrisent leur fécondité et quand elles ne souhaitent pas avoir une grossesse, elles vont se débrouiller. Si on prend le cas au Burkina ou par exemple au Gabon ou par exemple en Algérie, etc., on sait qu'il y a des avortements clandestins.
Comme
tout le monde le sait.
Comme il y en avait chez nous auparavant.
Comme il y avait en France avant 75 et que les femmes, si elles vont faire pratiquer un avortement clandestin au péril de la vie, ça veut dire qu'elles souhaitent maîtriser leur fécondité et qu'elles vont se débrouiller, qu'il y ait une loi ou non. Voilà. Donc, il y a cette question de l'avortement, il y a cette question du droit de la famille. Donc, pour citer un petit peu les droits dans ce protocole de Maputo, par exemple, le droit à l'intégrité physique, le droit à la dignité, le droit à l'égalité dans le mariage. Puisqu'on sait que dans beaucoup de pays, comme c'était le cas ici aussi, dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'égalité dans le mariage.
Tout à fait.
Il n'y a pas d'égalité dans le mariage, il n'y a pas l'égalité dans la famille. Donc le droit à l'égalité dans le mariage, mais le droit aussi à la à l'autonomisation donc des femmes et le droit de participer à la politique et à la gestion des affaires publiques. Donc c'est vraiment un traité qui met en avant le droit à tous et à toutes d'exercer la citoyenneté dans un pays. Et puis, donc, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, il y a un article, c'est le numéro 14, j'ai noté, et c'est que le droit à la santé sexuelle et reproductive et le droit à l'accès à un avortement sécurisé. C'est-à-dire qu'un avortement sécurisé, il faut qu'il soit fait dans de bonnes conditions par un personnel formé, un personnel de soins, ça peut être des sages-femmes, comme ici elles ont le droit, mais sauf qu'il y a des gens qui pinaillent encore et qui doutent de des compétences des sages-femmes. Et donc c'est clairement inscrit dans le protocole de Maputo. Sauf que on peut ratifier un protocole, mais si on ne met pas les moyens, d'abord les moyens humains, les moyens financiers, etc., pour construire les dispositifs afin de que les populations, hommes et femmes, et notamment les femmes, puisque les inégalités, bien sûr, touchent principalement les femmes, pour qu'elles aient assez accès à la santé, ce n'est pas fait. Mais alors, ceux qui ont en Afrique... si on parle peut-être du droit à disposer de son corps, bon, tout le monde sait que c'est la Tunisie qui a été le premier pays, avant la France, en 1973, fait une loi pour que les femmes puissent disposer d'un accès à l'avortement libre et sécurisé. C'est 1973. Oui. Donc, ça c'était au temps de Bourguiba, qui pour lui a aboli la polygamie et en même temps a fait cette loi. En fait, il a développé la planification familiale pour que les familles puissent planifier les grossesses et notamment avoir des enfants dans de bonnes conditions et des bonnes conditions et notamment de santé mentale aussi. Voilà.
Et c'est vrai que Bourguiba avait fait faire une avancée fabuleuse aux femmes dans son pays.
Voilà. Ce qui est plus pour le droit à l'avortement, c'est l'Afrique du Sud. Après, il y a eu le Cap-Vert et tout récemment, c'est le Bénin.
Le Bénin.
Voilà, alors c'est chouette parce que le Bénin, en fait, ils sont vraiment en conformité, c'est en fait se mettre en conformité avec le protocole de Maputo. Et au Bénin, il y a eu un groupe de jeunes, une espèce de groupe de travail, une espèce de réseau, dont les activités et les missions ont été centrées uniquement sur la question de la santé sexuelle, du droit des jeunes, de la sexualité, etc. Le droit à l'avortement a été voté, je crois que c'était 2023. Donc je pense que c'est ça, donc la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et maintenant le Bénin. Et dans les autres pays, si je prends par exemple le cas de l'Algérie, dès qu'on aborde la question de l'avortement, ça. Il y a toujours des levées de boucliers et une violence, notamment dans les réseaux sociaux. Or, si on prend le cas par exemple du Maroc, où il y a eu peut-être, moi je pense, une très bonne démarche pour réunir tout le monde de manière à mettre le sujet au centre des débats et que tout le monde puisse s'exprimer. Même si ça n'a pas avancé, c'est quand même, moi je trouve que c'est vraiment une démarche très, comment dirais-je, très honorable et très courageuse pour parler de ces questions.
Donc on sait bien que c'est compliqué ces histoires-là, puisqu'on voit bien que nous, ça y est, on a une loi qui vient de passer, mais par quoi on a dû passer? Comment Simone Veil à l'époque a dû se battre, enfin vraiment,
se faire insulter,
et on voit bien quand même qu'au milieu aussi, il y a tous les acquis masculins qui sont remis en question, mais il y a aussi les histoires religieuses, les histoires culturelles, il y a vraiment, ça remet en question beaucoup de facteurs qui effectivement font des remous beaucoup dans les sociétés. Et donc, on sait bien. Alors, bon, comme on a encore beaucoup de choses à dire et que c'est intense et que vous avez compris que la question de l'avortement, c'est pas pour rien qu'on l'a abordé longuement, puisque c'est quand même une question actuellement qui est centrale déjà en France et puis je pense dans beaucoup de pays. Je propose, Latifa, qu'on fasse une petite pause musicale avant de se relancer, de reprendre du souffle. Et donc, la proposition que tu nous fais, c'est donc Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, c'est Pata Pata de Myriam Makeba, voilà. Donc la chanteuse.
Une sacrée bonne femme aussi,
sacrée
Myriam
Makeba. Femme, ouais, voilà. Sud-africaine. Voilà.
Une sacrée femme. Voilà. Ouais. D'accord. Pata Pata. Pata Pata. À tout à l'heure. Voilà, et bien nous voilà de retour. Je suis toujours en compagnie de Latifa Drif et nous étions elle était en train de nous expliquer un petit peu toutes les dispositions, enfin tous les secteurs qu'a couvert le protocole de Maputo pour faire le droit aux femmes africaines. Bon, et on parlait un petit peu des différents aspects et nous nous sommes un peu attardés sur la problématique de l'avortement qui, comme on le sait et comme on est arrivé enfin à faire passer un texte de loi, on sait bien combien c'est compliqué tout ça. Voilà, donc Latifa, tout à l'heure, tu nous as parlé, entre autres, ça m'a interpellée, de l'intégrité physique. Et bien sûr, immédiatement, j'ai pensé à l'excision.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, donc ça, c'est il y a l'intégrité physique, il y a plein d'articles qui spécifient d'abord l'interdiction de l'excision, lié au droit à l'intégrité du corps, de son corps, et en même temps, toujours dans la même perspective donc, de ce protocole, et on sait que l'excision est pratiquée dans beaucoup de pays et pas du tout dans certains. Mmh. Donc c'est une pratique ancestrale qui consiste à couper, faire l'ablation du clitoris, des petites lèvres, etc., en s'appuyant sur des croyances du type, par exemple, si la fille n'est pas excisée, elle va aller se prostituer. Si la fille n'est pas excisée, les récoltes elles vont être perdues. Si la fille n'est pas excisée, elle va accoucher par le siège et elle va ruiner la famille, etc. Et il y a des pays, comme par exemple le Rwanda, où la pratique de l'excision, même le Togo, n'existe pas. Voilà, elle n'existe pas. Donc, ça prouve bien que ça se fait dans des contrées avec, on va dire, une culture patriarcale qui est très ancienne. Ça se fait aussi en Égypte.
Oui, oui.
Voilà,
oui,
ça se fait en Égypte. Et donc, ce protocole, non seulement il assoit la question de l'intégrité du corps, l'intégrité de l'excision, mais étant donné que c'est un protocole qui a ratifié, donc cela veut dire qu'il faut mettre en place les formations, l'information, la sensibilisation, etc. On sait par exemple, alors je vais encore prendre le protocole, le Burkina, on sait que par exemple au Burkina Faso, dans les villes, dans les poches urbaines, il y a d'ailleurs un numéro, il y a un numéro vert à Ouagadougou, il y a une vraie diminution dans les poches urbaines, mais on n'arrive pas à maîtriser toutes les territoires ruraux. Et avec ce qui se passe actuellement, je pense qu'on maîtrise encore moins la situation. Donc on sait que ça a baissé dans beaucoup de pays. Je crois que c'était l'année dernière, une petite fille est morte en Égypte. En Égypte, quand même, voilà, où il y a certains médecins, pas tous, ou des personnes qui appellent à une médicalisation. Donc ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que, comme on sait qu'il y a beaucoup de risques sanitaires, voire de mort, de handicap, suite à cette pratique qui est néfaste, donc on dit, ça veut dire qu'il faut le faire proprement. Non, il y a, d'ailleurs dans la Convention internationale des droits de l'homme aussi, et dans tous les traités, notamment dans le protocole de Maputo, qui dit intégrité physique. Donc on n'a pas à toucher au corps d'une femme ou d'un homme. Donc c'est ça l'intégrité physique.
Tout à fait. Là, de toute façon, c'est vrai que c'est très compliqué, parce que comme tu dis, effectivement, il y a des pays où c'est légiféré. Même je crois que le Mali, c'est assez récent.
C'est très
parce
récent.
Que jusque-là, c'était
ça
pas
a
interdit.
Été, ça a traîné pendant.
Il y a une loi, mais malgré les lois, comme tu dis, que ce soit dans les territoires reculés ou dans certains milieux, encore et en secret, il y a cette pratique-là. Par contre, le fait qu'il y ait une loi, c'est vrai qu'on peut s'appuyer dessus pour condamner, etc., interdire et condamner en tout cas.
Alors s'appuyer, la faire connaître,
parce que voilà, et la faire connaître tout à fait.
Connaître. Oui. Sinon, la loi, elle est sèche, si elle n'est pas accompagnée,
bien sûr,
si elle n'est pas connue. Donc, la question de l'excision, elle s'inscrit, en tout cas pour moi, dans le continuum des violences. C'est-à-dire, à partir du statut, déjà, la violence institutionnelle qui fait que la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme et que dans la famille, elle n'a pas les mêmes droits familiaux en termes de décision, de respect, d'intégrité du corps, etc. Et en plus, cette pratique de l'excision, on pourra parler aussi après... par exemple du mariage forcé ou voilà tout ça
aussi,
dans la sphère qui se fait dans la sphère familiale. Alors quand même il faut dire que dans beaucoup de pays, et on va citer tous les pays qu'on connaît qui font beaucoup de sensibilisation sur la question de l'excision, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Je sais que dans beaucoup de pays il y a des caravanes, c'est des jeunes qui font de l'information, de la sensibilisation. En France, on a une très grosse assoce que je salue, et que je salue la directrice Isabelle Faye et d'autres collègues qui font un travail extraordinaire sur cette question, parce qu'on s'est rendu compte que le voyage pendant les vacances dans des familles originaires d'Afrique et notamment de pays qui pratiquent cette excision, il y avait un risque pour les petites filles. Donc il y a tout un travail qui est fait en termes de sensibilisation, en termes de mise en garde, de prévention, etc. Et je sais qu'en France, la loi, elle est élastique. Je ne saurais pas l'expliquer sur le plan juridique. Je sais que la personne qui va dans un... Elle est là, elle est en France, elle va dans un pays où elle subit cette pratique néfaste. Donc, quand elle revient, elle est protégée. Et les personnes qui ont pratiqué l'excision... sont passibles de sanctions, voire de prison,
oui,
etc.
Et il semblerait d'ailleurs, moi j'ai lu quelquefois des actualités où il semblerait que ça se pratique encore quelquefois en catimini, en France aussi, dans certains milieux. Alors que c'est vraiment strictement interdit.
Voilà.
Et ce que je voudrais dire en petite parenthèse, c'est que pour les personnes que ça intéresse, il y a un superbe film très très dur qui a été fait, qui est de Samben Ousmane. Ousmane Samben, c'est un grand cinéaste africain qui s'appelle Mouladé, ça s'écrit M-O-L-A-D-E, et qui traite vraiment de cette question et de l'enjeu sociétal que ça représente, c'est-à-dire cette femme qui s'oppose justement à l'excision de sa fille, et puis voilà. Et le mari, comment le mari aussi subit quelque part les assauts et les critiques dans son village, des hommes du village. Donc si vous aviez envie de vous intéresser à ça, c'est un film qui est magnifique. Il n'est pas récent, mais il est superbe.
Voilà. Oui, alors la situation des femmes, après, c'est vrai qu'il y a des pratiques ancestrales, patriarcales, qui sont très dures à bousculer, à changer. Mais on sait que l'école, l'instruction, on sait que l'école émancipe. Oui. Et donc, dans ce protocole, c'est ça aussi, il y a la question, il y a le droit à l'éducation. Mmh. Et le droit à l'éducation pour tout le monde, c'est-à-dire pour les petites filles et pour les garçons. Mmh. On sait, par exemple, que le fait d'aller à l'école, ça retarde les grossesses précoces, puisqu'il y a des grossesses précoces qui sont dangereuses pour le corps qui n'est pas fini. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça, qui n'est pas fini. Et qui fait, dont les conséquences sont très graves, jusqu'à il y a des déchirures, etc. Donc on sait que les grossesses précoces, ça veut dire que c'est très jeune, quoi.
Tout à fait. Voilà. Alors comme l'heure tourne, Latifa, et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il aurait fallu qu'on ait beaucoup plus de temps. Est-ce qu'on peut, du coup, on embraye pour moi, c'est tout à fait naturel, sur l'histoire du mariage forcé, parce que ça aussi, c'est très fort en Afrique.
Ça existe chez nous aussi, comme tu sais, Marie-Claude. Donc voilà, oui, la question du mariage. Alors, il y a certains qui disent mariage d'enfant, oui, mariage précoce. Donc, moi, je propose qu'on dise mariage forcé des enfants. Et précoce. Mmh. Parce qu'il peut être précoce à 20 ans ou 25 ans et que la personne n'est pas d'accord. Alors, dans le droit, justement, dans ce protocole, c'est le droit de se marier ou de ne pas se marier pour être vraiment en conformité avec la Convention internationale des droits de l'homme, avec la CEDAW aussi, la Convention internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui est ratifiée par la plupart des pays africains et qui stipule que l'intégrité du corps, la lutte contre les violences, l'interdiction du mariage forcé, de l'excision, etc. Oui, le mariage forcé, mais il y a quand même pas mal de pays qui ont relevé l'âge à 18 ans du mariage pour se mettre en conformité avec la loi internationale. 18 ans. Avant 18 ans, il faut soit être émancipé, ça prend beaucoup de temps, même chez nous, en France, et aussi bien pour les filles que pour les garçons. Mais on sait bien dans toutes les études, les enquêtes, dans tous les pays africains, qu'il y a encore des familles, et quand on fait pression à la maison sur une personne, et notamment une fille, il y a, ça génère beaucoup de difficultés, notamment ça génère du stress, ça génère un conflit de loyauté, des pressions, etc. Et on ne parle jamais du mariage forcé qui est en fait imposer des relations sexuelles à une personne, que ce soit une fille ou un homme. Malheureusement, les filles sont beaucoup plus... Les hommes aussi, c'est à peu près 3, peut-être 2 à 5 % d'après les études. Mais la majorité, ce sont des filles, ce sont des jeunes. Et là, on entend beaucoup parler de mariage forcé, par exemple, en Afghanistan, au Pakistan, etc. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui existe même chez nous. Je pense qu'en ce moment, en France, ça a été pris en compte par les structures, par les institutions et par la communication et la prévention qui fait que les personnes concernées, notamment les jeunes filles, parce qu'elles sont très jeunes, peuvent avoir recours à des numéros de téléphone, à aller dans des structures, etc., pour se faire aider, même entre elles, etc. Je pense que depuis 20 ans qu'on travaille sur cette question, il y a des choses qui ont avancé.
C'est vrai que c'était un peu ta spécialité.
Mais ce n'est pas encore fini. Mais ce qui est intéressant dans ce protocole de Maputo, c'est que il y a tout, il y a absolument tout, et c'est important qu'il soit connu par tout le monde, et d'ailleurs par beaucoup d'organisations féminines et féministes africaines. C'est utilisé comme levier pour demander le changement de la loi et l'accès aux droits, etc.
Oui, merci, mais ça donne de l'espoir. Alors, la dernière chose que j'aurais voulu qu'on aborde, mais on va le dire rapidement alors, c'est que quand même, dans beaucoup de pays aussi, j'associe toujours au lycée Clémenceau, qui fut mon lycée, qui est le plus ancien lycée de jeunes filles de France, c'est-à-dire qu'à l'époque, les jeunes filles n'allaient pas au lycée, bien sûr. C'est un lycée qui a 120 ou 130 ans, donc c'est pas si vieux. Et tu peux nous dire deux mots justement de ces problématiques. Parce qu'on sait bien que dans les familles ou dans les villages, etc., les filles souvent ne sont pas scolarisées. dans ces pays-là.
Hein, oui, les filles ne sont pas scolarisées.
On considère
que ce n'est pas leur place. Ouais. C'est plus les garçons que les filles qui sont scolarisées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui font des efforts pour ouvrir des classes, justement, dans des contrées. Et je veux juste citer INSAF. Oui. INSAF, c'est une organisation féministe marocaine qui construit des internats pour les filles qui sont dans des villages. D'ailleurs, beaucoup de leur, je crois que au moins tous les internats ont été détruits par le dernier tremblement de terre, parce que c'est pas loin de Marrakech. Et elles ont elles travaillent avec les parents et elles scolarisent les filles qui sont internes toute la semaine, c'est-à-dire pour être à l'école et après le week-end, elles peuvent aller. Et donc c'est INSAF, je fais de la pub pour INSAF, une organisation au Maroc, à côté de Marrakech. Oui, la scolarisation, c'est
bravo INSAF, en tout cas. Donc on a essayé de balayer un petit peu les côtés les plus importants. On n'avait pas trop le temps, mais j'espère que ça aura éveillé un peu les consciences aussi, pour voir aussi combien c'est compliqué de lutter pour les droits des filles et des femmes. Latifa, tu peux peut-être nous citer, il y a deux événements là, justement le 8, puisqu'on a expliqué qu'on est le 4, mais que c'est pour le 8 aussi. Oui.
Plein d'événements, vous allez sur le site de la mairie, il y a énormément d'activités très intéressantes dans les quartiers, au centre-ville, et pour les associations féministes réunies en inter-organisation, il y a une assemblée générale féministe à midi, donc vendredi 8, à la Maison des syndicats, où il va y avoir des débats sur les luttes en cours, sur les actions, etc. Et puis après, à partir de 14h30, la manifestation en ville, où les femmes vont être ensemble pour manifester et pour, encore une fois, annoncer la grève féministe, puisque ce 8 mars, comme tous les 8 mars, il y a une grève féministe pour montrer que les droits des femmes ne sont pas encore acquis en France et qu'il faut encore continuer à se battre.
On a vu qu'il y a du boulot en Afrique et ailleurs, mais bon, c'est nous aussi. Donc, merci. On a évoqué Maputo et le protocole de Maputo. Apparemment, ça continue à avancer. Merci Latifa de tous ces éclaircissements. Merci à FM+, de nous accueillir pour ces échos de la solidarité internationale. Et merci à Yann pour sa patience et son écoute. Au revoir à tous, à la semaine prochaine.
Merci.